Trainville PM. La voie est libre.
Take me out of peanuts and... Je me rappelle plus des paroles.
Take me out of the ball game. Là, je ne m'en rappelle plus.
Bon, c'est ça. Alors, voici. Vous avez compris les limites de notre mémoire.
De notre mémoire et de notre association au baseball.
Voilà. Mais Luc, c'est intéressant ce qui sort comme nouvelle, par contre, parce que ce qu'on apprend, c'est que le commissaire du baseball majeur aurait, en fait, permettrait aux Rays de Tampa Bay de conclure une entente avec Montréal pour faire en sorte de partager l'équipe entre la Floride puis Montréal. C'est ce qu'on comprend. Hein?
Le conseil exécutif du baseball majeur s'est réuni puis a autorisé les Rays, l'équipe de Tampa Bay, à envisager, en fait, il les autorise à agir dans cette direction, d'avoir une équipe qui serait divisée entre Montréal et Tampa Bay. L'idée serait la suivante, de ce que je comprends, on l'apprenait en même temps, toi et moi. L'idée serait la suivante, c'est que le début de saison, quand la température est moins clémente, serait joué en Floride à Tampa Bay. Et dès lors qu'on arriverait à l'été, il n'y a pas de date, là, mais moi, je dirais à partir du 15 juin ou quelque chose comme ça, l'équipe jouerait à Montréal.
Ouais.
Alors, il se serait... Le baseball majeur, il voit une façon de maintenir une équipe dans le marché de Tampa Bay, qui est un marché très riche, donc ne pas fermer la place complètement. Puis ça permettrait de ramener Montréal dans le giron du baseball majeur.
Mais là, ce qu'on comprend, c'est que ça implique la construction d'un stade, parce que si on fait ça, c'est pas pour les faire jouer au stade olympique, parce qu'au stade olympique, on peut les faire jouer à l'année sans problème, le stade est couvert.
Ouais.
Mais c'est de les faire jouer dans un stade, un nouveau stade qui serait construit dans le bassin Peel.
De type centre-ville, sans toit. Moi, là-dessus, tu vois, j'ai toujours eu cet étrange sentiment que pourquoi est-ce qu'on a décidé un jour que le stade olympique, c'était plus adéquat? Pourquoi? Moi, je me souviens de l'époque où je suivais encore le baseball, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et quand j'habitais à Ottawa, puis on prenait notre voiture, puis on s'emmenait voir les expos, puis il y avait 55 000 personnes dans le stade. 50 000 personnes dans le stade. Ça, c'est quand tu avais André Dawson, puis Tim Raines,
quand ça gagnait,
Steve Rogers, puis tous ces fabuleux joueurs-là, Gary Carter et tout ça. Mais quand le stade s'est retrouvé avec 5 000 personnes, c'est parce qu'on avait, fait une vente de feu et on s'était débarrassé de tous nos joueurs.
Ouais.
Alors, bon, en même temps, ça rend peut-être la chose plus viable parce que, tu vois, cette hypothèse-là a déjà été envisagée. En fait, ce qu'on dit dans les dépêches de presse, c'est que M. Bronfman, Stephen Bronfman, qui est à la tête du groupe qui veut ramener le baseball à Montréal, dans ses pourparlers avec les divers niveaux de gouvernement, a mentionné ça comme une possibilité. Mmh. Là, la possibilité devient plus grande, là, la probabilité plus grande, parce que le fait que le conseil exécutif du baseball majeur se réunisse et entérine complètement une résolution qui dit on permet à Tampa Bay, les Rays de Tampa Bay, de faire ce type de négociation, cette ouverture, bien, ma foi, ça veut dire qu'on s'en rapproche. Et là, ce matin, on voyait les résultats d'un sondage, réalisé par Forum Research, qui dit qu'il y a 59 % des Québécois qui veulent un retour des expos. Alors...
Oui, puis là, on sort pas juste Montréal, là, c'est l'ensemble des Québécois.
Oui, absolument. Alors, absolument. Les expos ont toujours considéré, à l'époque où ils étaient ici, que leur marché, c'est le Québec en entier.
Ah, oui, bien sûr. Bon, là, la grande question, c'est est-ce qu'on doit mettre de l'argent public? C'est sûr qu'il y a eu des questions comme celle-là qui ont été posées la semaine dernière quand on a vu que les Raptors avaient gagné. Mm-hmm. Bon, ça a amené des questions sur les Raptors, bien sûr, mais aussi sur les expos, à savoir est-ce qu'on doit mettre de l'argent public dans le retour d'une équipe de baseball majeure? Et François Legault a dit...
Il m'a beaucoup surpris, d'ailleurs.
Ouais, il a dit, nous autres, on est prêts à mettre de l'argent, mais à la hauteur de ce que ça nous rapporte. Alors, il donnait l'exemple, il dit combien par exemple, la masse salariale des joueurs rapporterait en impôts, par exemple.
Mm-hmm.
Alors, là, tu fais ce calcul-là, puis ensuite, M. Legault disait, on est prêt à mettre le même argent parce qu'ils ne veulent pas perdre d'argent, ils veulent pas que ça devienne, autrement dit, un gouffre financier. Alors, eux autres diraient, calculez la masse salariale, puis nous autres, on pourrait peut-être regarder ce qu'on peut mettre en investissement.
Moi, c'est un non catégorique à l'investissement public dans le sport professionnel. Les Canadiens de Montréal, qui existent depuis plus de 100 ans, n'ont jamais été financés par le public.
Mm-hmm.
Le Centre Bell leur appartient. Il n'y a pas eu d'argent public de dépenser pour construire ça.
Il y a 400 millions à Québec pour un...
Ouais, un arrêt on s'embarque dans une autre affaire. Là, ça. Mais d'ailleurs, ben, c'est, pas, des sert, honnêtement, là, ça fait partie de la réflexion de dire, ben écoute, 400 millions de deniers publics, puis il est vide. Je veux dire, il y a quoi, 50, 60 soirées d'occupées pendant l'année?
À peu près, puis c'est des spectacles.
Puis c'est des spectacles, puis de temps en temps, les Remparts de
les
Québec.
Les Remparts de Québec. Puis c'est...
Il y a un match hors concours, même cette année, il n'y en aura pas. Non, moi, je suis catégoriquement contre l'investissement public dans ce type de sport professionnel, dans tous les sports professionnels. Et c'est simple à comprendre pourquoi. La mathématique des gens qui investissent dans le baseball majeur, elle ne repose pas sur le dividende qui leur sera versé à chaque année. Elle repose, l'investissement repose sur l'idée de la plus-value.
Ouais.
Les franchises valent de plus en plus cher et ainsi, j'ai une valeur entre les mains qui ne cesse de croître, un peu comme de l'immobilier. Et le jour que je déciderai de la vendre, je vais faire mon retour sur mon investissement. Mmh. Alors, pourquoi est-ce que qu'est-ce que j'ai à faire dans ça, moi, enrichir? Et j'ai rien contre le monde qui s'enrichisse, mais pourquoi, moi, le contribuable, je devrais contribuer à enrichir les gens qui sont assez riches pour aller prendre des risques dans le baseball? Ouais. J'ai pas d'affaires là-dedans. Les Canadiens sont pas là-dedans. Je pense qu'il y a eu quelques investissements du public dans le stade Saputo, mais peu.
Mmh. Et mais aux États-Unis, c'est monnaie courante que les villes, entre autres, investissent dans des infrastructures sportives parce que ça apporte un certain, une certaine activité commerciale, mettons, plongeons de même.
Oui, d'accord, mais d'un autre côté, oui,
mais on les implante dans le centre-ville, par contre.
Hein, pardon?
On les implante dans les centres-villes.
Ah, ben oui, c'est là où je suis allé récemment à San Diego. C'est quelque chose, c'est en plein milieu de la ville, comprends-tu? Tu prends ton petit verre autour, là, tu vois l'équipe de baseball. Mais c'est pas, moi, je vois pas comment on pourrait justifier. Écoute, on a un stade olympique, on sait même plus finalement combien ce qui nous a coûté en bout de ligne, quasiment 3 milliards. Okay. Bon, il y aurait besoin d'être rafraîchi. Il paraît que ça coûterait je ne sais pas combien. Mais on ne peut pas comme ça. On va construire un autre stade. Puis vu qu'on construit un autre stade, il faudrait faire une station du REM. Puis si on fait une station du REM, il faudrait peut-être faire un tunnel qui mène vers le métro. Puis si on fait ça, ça prendrait peut-être aussi un viaduc qui va nous permettre d'accéder plus rapidement au stationnement. Et c'est ce genre de chanson qu'on nous chante, qui est, regardez, il n'y a pas d'argent public dans ça. Ah! Les infrastructures en appui. Mais moi, laisse-moi avoir des doutes. Maintenant, revenons à ce qu'on disait au début. Cette décision du baseball majeur change un peu la donne. Je veux dire, je peux voir que le projet deviendrait plus naturellement rentable.
Ouais.
Parce que même s'il jouait au stade olympique avec un toit, il fait fret à fin de mars, début avril.
Ouais. Hein?
Et tu remplis pas le stade.
Mais moi, j'en ai vu des matchs de baseball aussi au stade olympique. C'est pas le meilleur endroit quand t'es... La façon dont les gradins...
Ça n'a pas été construit pour le baseball, ça a été construit pour l'athlétisme.
C'est ça. T'as l'impression de... Partout d'être... À part si t'es vraiment derrière le marbre, là, t'as l'impression d'être loin de l'action.
C'est vrai. C'est vrai. Et il y a des gens, des bons vieux nostalgiques qui vont vous dire on s'ennuie du parc Jarry.
Ouais.
Parce qu'au parc Jarry, le stade faisait dur, ça n'avait pas de bon sens, sauf que t'étais collé sur les joueurs.
Ouais.
Mais moi, je te dis, moi, là, avec mes routes défoncées, avec mes infrastructures en lambeaux, avec mes viaducs à réparer, avec un prolongement du métro, avec tout ça. Veux-tu me dire pourquoi faire? J'irais mettre des centaines de millions dans un club professionnel. Mm. Je veux dire, y a-tu beaucoup de Montréalais qui se lèvent le matin, puis qui est de Québécois en général, pour dire, hey, quand est-ce qu'ils vont nous ramener les expos? Hey, le gouvernement, s'il vous plaît, ramenez-nous les expos. Désolé. Moi, je trouve qu'il s'agit ici de divertissement de type sportif. On n'a pas d'affaire à mettre d'argent là-dedans. Maintenant, M. Legault semble avoir une approche différente. Et même son approche, quand tu y penses une seconde, donc il sera obligé de faire une projection.
Mmh.
On a tendance à se tromper dans nos projections quand on veut aller chercher de l'argent. Hein?
Ouais.
Mais alors, j'aime pas ça.
Ouais.
J'aime
les autres partis avaient tous été interrogés là-dessus sur la même question. Puis le seul parti qui était prêt qui avait une certaine ouverture à injecter des fonds publics, c'est la CAQ. C'est le premier ministre qui l'a dit. Les autres ont tous dit, nous autres, on est bien d'accord pour le retour du baseball à Montréal, mais il ne faut pas que ça coûte une scène aux contribuables.
Voilà. Alors, on sait où on s'en va. Hein?
Ouais.
Dire, penses-tu que ça va marcher? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas, mais je sais une chose. Denis Coderre, qui est un de nos plus fidèles auditeurs à cette émission, doit être heureux comme un roi.
Là. Ah oui, lui...
Denis, il rêve.
Exact.
Il a travaillé pour ça. Quand il m'a entendu l'autre jour dire que les Raptors démontraient que ce que ça prenait à Montréal, c'était une équipe de la NBA, parce que c'est le sport de l'avenir alors que le baseball est en déclin, autant ouais. par la vente des billets que par les codes d'écoute. Tout de suite, Denis, mon ami, qui m'envoie ça. Hey, wow, mollo, mollo sur le baseball, il faudrait qu'on se parle. On est d'ailleurs supposé de se parler. Mais moi, je maintiens que, et ce sondage-là le démontre, les moins de 35 ans, là, pas bien fort sur le baseball. Hein. Ouais. Et puis les codes d'écoute démontrent la même chose. La démographie est vieillissante.
Ouais. Mais là, on essaie de faire un paquet d'affaires pour essayer de raccourcir la durée des matchs. Parce que c'est long, des matchs de baseball, des fois.
Ben, ça correspond plus au rythme moderne, tu comprends? Et là, ils sont en train d'essayer de trouver des trucs, chronométrer les gars quand ils s'en vont au monticule, toutes sortes d'affaires du genre. Ça reste que c'est pas un sport qui accroche à l'heure actuelle sur la jeunesse. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un beau sport. Autrefois, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai fini par me tanner là, quand on n'avait plus d'équipe ici et tout ça. Et je le suis plus maintenant. Je constate que c'est un beau sport, mais que ce n'est pas le sport qui excite notre jeunesse. C'est clair.
On va aller à la pause, Luc. Et puis, tout de suite après, on va s'inquiéter un peu sur ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment avec, entre l'Iran et les États-Unis. On s'arrête et on revient dans un instant.
Drainville PM. La voix est libre.
Is a general or somebody that made a mistake in shooting that drone down. I have a feeling I may be wrong and I may be right, but I'm right a lot. I have a feeling that it was a mistake made by somebody that shouldn't have been doing what they did.
Voici Luc Lavoie.
Alors, c'était Donald Trump, évidemment, qui commentait le fait que, bon, on soupçonne l'Iran d'avoir abattu un drone américain.
Bon, ils ont abattu
un drone américain. Oui, oui. Je pense que même les Américains le reconnaissent, là.
Mais sauf que les Américains disent qu'il était en dehors des eaux
territoriales. Exactement. Eux autres disent qu'il était sur notre territoire.
Il était sur notre territoire. Alors, bon, un drone, évidemment, c'était un avion sans pilote, là.
Il n'y a pas de drame humain là-dedans, là.
Il n'y a pas de drame humain là-dedans, mais les bruits de bottes, comme on disait autrefois, là, la guerre qui couvre là, commence à devenir de plus en plus inquiétante. Ouais. Il y a eu ces deux pétroliers qui ont été attaqués la semaine dernière avec, semble-t-il, dépendant à qui tu parles, soit que c'est des mini-drones, soit que ce sont des ventouses, des mines ventouses. On le saura peut-être jamais. L'Iran a démenti qu'il y avait quoi que ce soit à voir avec ça. Trump et ses militaires ont juré que c'était très grave puis que c'était eux autres. Trump a fini par changer sa chanson puis dire, dans le fond, c'est un incident assez mineur. Fait que là, t'as cette espèce de montée, t'es rendu avec ce qu'ils appellent aux États-Unis un carrier group, là. Ouais. Ça, c'est un porte-avions avec ses 90 avions de combat puis les 24 navires d'accompagnement qui sont déployés juste là, plus une trentaine de bases militaires de toutes sortes, des bases aériennes principalement, partout autour.
Ouais.
Évidemment, j'ai pas besoin d'aller dans les détails, mais les satellites de surveillance, tous les systèmes de surveillance des Américains.
Trompez-vous pas, les Russes sont là aussi.
Ben, les Russes sont là aussi, puis les Chinois sont là aussi.
Ouais.
Et Poutine est sorti aujourd'hui pour dire à Trump, allez pas attaquer l'Iran, ça va être l'enfer.
Ouais.
Parce que, ben, c'est vrai que ça va être l'enfer, soit dit en passant, là. Les Américains, c'est comme s'ils apprennent jamais rien dans la vie. Là. Mmh. Ça va être l'enfer pour plusieurs raisons. D'abord, l'Iran est allié avec la Russie. L'Iran est également allié avec la Chine.
Ouais.
L'Iran rayonne sur une beaucoup plus grande superficie que ce qu'on pense, parce que ça, c'est le cœur de l'ancien empire perse qui a laissé des traces un peu partout autour. Par exemple, quand tu parles de l'Afghanistan, si tu veux un jour mettre fin à tout ce qui se passe de trouble-là, il faut que ça passe par l'Iran, parce que l'ethnie principale parle le perse et considère que Téhéran est sa métropole. L'Irak, que les Américains ont attaqué sans raison, sur la base d'un mensonge, il y avait 60 % de sa population qui était chiite. Et comme par hasard, si tu regardes une carte, la population chiite de l'Irak se trouve exactement sur la frontière avec l'Iran. En d'autres mots, il n'y en a plus de frontières. Les chiites de l'Irak, qui sont 60 % de la population de ce qu'était l'Irak avant la guerre, ne répondent plus qu'aux ordres ou qu'aux gouvernants venus de l'Iran. Donc l'Iran, c'est le cœur du monde chiite qui est en guerre dans une sorte de guerre civile permanente. Avec les sunnites. Les sunnites, à l'époque, avaient comme pays leader de leur groupe. Puis peut-être ça vaudrait la peine de prendre juste 30 secondes pour dire aux gens, vous savez, l'islam, il y a deux grandes confessions. Ouais. Il y en a quelques autres, mais il y a deux grandes confessions. Les sunnites, qui ont toujours été dominants, qui ont toujours été, historiquement, là, on parle de siècles, les sunnites étaient vraiment l'islam dominant. Et il y a eu les chiites. Les chiites qui sont nés d'une espèce de schisme idéologique familial, bizarroïde, à peu près 200 ans après la mort de Mahomet. et qui se sont installés en Iran. On les trouve aussi au Liban en très grand nombre, et le Hezbollah est une créature de l'Iran, vous le savez. Il s'en trouve en Syrie, pas beaucoup, mais en Syrie, le groupe ethnique qui est au pouvoir, ce sont les Alaouites. Les Alaouites sont une religion qui descend du chiisme. Alors, t'as ce groupe-là, l'Iran, 85 millions d'habitants, très grand producteur de pétrole, évidemment avec une armée à l'avenant. Et puis, t'as à côté de ça, bon, les Irakiens, là, dont je parlais tantôt, t'as à côté de ça la Syrie, t'as à côté de ça les pays limitrophes qui sont très proches de l'Iran historiquement et tout ça. Puis de l'autre côté, l'Égypte n'ayant plus les moyens financiers, militaires ou autrement d'assumer le leadership du monde arabe sunnite, l'Arabie saoudite se l'est comme approprié.
Ouais.
Et là, ils se sont mis à s'armer jusqu'aux dents. Et c'est le sympathique prince héritier Ben Salman, celui qui a ordonné l'assassinat du journaliste Khashoggi et son démembrement avec une scie. C'est lui maintenant qui est à la tête du pays. Il est immensément agressif. J'avais oublié de mentionner dans mon cours de géographie qu'il y a également le Yémen. Le Yémen, il y a une guerre civile qui est là depuis des années, mais qui là a pris une ampleur incroyable parce que l'Arabie saoudite et l'Iran s'en sont mêlés. Ils se font la guerre sur un territoire étranger. Alors, est-ce qu'on voit à l'heure actuelle, moi, je ne crois pas que les deux pétroliers, la semaine dernière, ont été attaqués par l'Iran. Je ne peux pas voir pourquoi ils auraient fait ça alors que le premier ministre du Japon, leur principal client, était en visite à Téhéran. Pourquoi ils auraient fait ça? Puis il n'y a aucune preuve, en fait, à part les États-Unis qui ont continué à clamer ça. Les autres pays de l'Occident, à commencer par l'Allemagne, puis à commencer par la France, ils ont dit non, nous autres, on ne voit aucune preuve dans ça que l'Iran est intervenu. Tout ça a fait en sorte, ça fait trembler le monde, ça a fait monter les prix du pétrole instantanément de beaucoup. Là. On est rendu là, autour de 60 $ et plus avec le Brent, qui est la référence britannique. Là. Alors, ça vient créer un climat extrêmement inquiétant. Si une guerre devait éclater avec l'Iran, quelle ampleur est-ce que ça prendrait? Qu'est-ce que ferait la Russie? Qu'est-ce que ferait la Chine? Qu'est-ce que ferait Israël? On a oublié de le mentionner.
Exactement.
Parce qu'Israël est devenu un allié de l'Arabie saoudite. Quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer autrefois. Pourquoi? Parce que les ennemis de mes ennemis sont mes amis.
Ouais.
Alors l'Iran, Israël a une peur bleue de l'Iran. Parce que le seul pays de cette région du monde qui possède la bombe atomique, c'est Israël. Il y a le Pakistan pas trop loin, mais c'est Israël. Et l'Iran était au point de pouvoir produire ses premières bombes quand il y a eu le fameux accord sur le nucléaire. Donc, en principe, ils n'ont pas de bombe atomique encore. Ouais. Mais ils ont la technologie qui est là, qui attend. Et Trump a choisi de déchirer. Trump a choisi son camp. Il est dans le camp des Saoudiens, des Sunnites. C'est fini là, sans nuance. Et il a déchiré l'accord nucléaire qu'il avait dessiné avec les grandes puissances et l'Iran pour les empêcher pendant au moins 10 ans de relancer leur programme nucléaire. Maintenant, pourquoi Israël a fini par s'allier avec l'Arabie saoudite? C'est exactement ça. Ils voient une puissance nucléaire leur mettre dans le visage, puis ils disent « je ne peux pas vivre avec ça, j'ai besoin, mais je ne peux pas, ma survie est en jeu ».
Mais on voit toute la complexité de cette région-là, puis de toutes les forces en présence, puis l'influence de tous les pays. Alors, si on se lance, si Trump devait lancer une attaque contre l'Iran...
Ça se passerait pas simple.
T'sais? Exactement.
Ça se passerait pas simple, parce qu'il y a trop d'intérêts en jeu, tu comprends? Le pétrole qui embarque dans des pipelines puis qui s'en va directement vers la Chine à partir de l'Iran, et l'autre qui part en pétrolier dans le détroit d'Hormuz puis qui s'en va au Japon, c'est énorme. Ensuite, dans le cas de la Russie, il ne faut pas oublier qu'au-delà des alliances stratégiques, c'est sur leurs frontières. C'est là. Alors, ça a deux conséquences. D'abord, ils ont peur que l'embrasement s'amène jusque chez eux, parce qu'ils ont toujours eu peur que les minorités musulmanes de leur pays finissent par se joindre à ces groupes-là. Et deuxièmement, si tu mènes une guerre, n'importe quel militaire va te le dire, c'est la logistique qui fait que tu peux gagner une guerre. Or, quand tu as des frontières communes ou presque, puis que tu peux transporter ton armement, puis tous tes besoins, puis tout ça par la route, puis les amener tant que tu veux, c'est pas mal différent de quand tu es à 7000 km, 10000 km de distance, et que tout doit être amené par des avions cargo gigantesques ou par des navires. Alors, sur le plan logistique, Poutine jouit d'un avantage évident. Et la Chine aussi, parce que regarde la carte, on arrive au bout de l'Asie. Là. Quand on arrive au bout de l'Asie, on arrive à la Chine. Alors, c'est un beau mélange. C'est comme si, après qu'on eût célébré le 75e du débarquement de Normandie et qu'on eût rappelé que ce que fut la Deuxième Guerre mondiale, on dirait que le monde n'apprend jamais. Il n'y a rien de pire que la guerre. Tout ce qui peut être fait pour éviter la guerre doit être fait. Les humains sont des humains. Un Iranien qui tue un Américain ou un Américain qui tue un Iranien, ça reste quand même des humains qui tuent des humains. Exactement. On ne veut pas d'une autre guerre. Et évidemment, Trump, on va dire, ben là, il est tenté pas mal parce que tu comprends, pour s'en aller en élection alors qu'il n'est pas sûr de gagner, il n'y a rien comme une guerre parce que l'histoire a démontré aux États-Unis que quand il y a une guerre, les gens se rallient autour du drapeau puis de leur président. Alors voilà, une situation à surveiller étroitement. On ne sait pas où ça va aboutir, mais disons qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien de très, très rassurant là-dedans.
M. Lavoie, ça a été un plaisir de travailler avec vous.
Au plaisir, Louis.
Pour des derniers jours.
Bonnes vacances aussi.
Ah, j'ai pas de vacances, moi.
Ah non?
Mais non, je commence à...
Sais-tu pourquoi?
Ben, parce que je les mérite pas.
Voilà! C'est parce que tu les mérites pas, Louis!
Salut, Luc, sur ces mots gentils. Salut. On s'arrête un instant, on vient tout de suite après.